Seconde partie de la Grande Table aujourd'hui avec un retour sur l'œuvre du maître du roman d'espionnage, John le Carré, David Cornwell, de son vrai nom, décédé en Cornouailles samedi soir à l'âge de 89 ans. Auteur d'une vingtaine de romans, dont le plus connu, L'espion qui venait du froid, sorti en 64. Vous entendez là un extrait du générique du film. Ce livre, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, porté à l'écran avec Richard Burton dans le rôle titre. Ainsi aussi du roman La Taupe, sorti en 74, pour ne citer que, adapté en 2011, où Gary Oldman est George Smiley. John le Carré, lui-même ex-agent secret, membre du MI6, envoyé en Allemagne de l'Ouest au début des années 60, c'est une vie incroyable, une vie de légende et une œuvre phare qu'il laisse aujourd'hui. Nous allons tenter de vous en parler avec nos invités, notamment l'historienne spécialiste de cette période Est-Ouest de la guerre froide, Marie-Pierre Rey, qui sera avec nous autour de 13h20. 13h15 peut-être, mais aussi avec le journaliste de l'Obs, François Armanet. John le Carré, c'était aussi l'homme de l'après-guerre froide, comme il nous le dira. Il l'avait rencontré en 2013. L'espionnage au XXIe siècle, les nouvelles guerres, l'Europe, qu'en pensait-il? Nous en parlerons donc dans la deuxième partie de cette émission. Notre invité ici avec moi en studio, Isabelle Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes-vous traductrice littéraire, enseignante à l'Université Paris 3, fille de Mimi Perrin, qui est la traductrice historique de John le Carré, édité au Seuil, ici en France. Vous avez pris le relais à la mort de votre mère en 2010 et aujourd'hui, vous avez déjà commencé à traduire John le Carré avant, mais depuis 2010, vous êtes son unique traductrice pour nous ici en France. Vous avez par ailleurs dirigé un cahier de Lerne qui lui est consacré et qui était sorti en 2018. John le Carré, c'est d'abord un pseudonyme.
Je vais vous dire la vérité et puis je vais vous dire un mensonge. La vérité, c'est que au temps où j'ai fait mes débuts d'écrivain, j'étais encore dans le Foreign Office et on m'a dit, c'était la vie officielle, il faut choisir un nom de plume. Alors je suis allé à mon éditeur anglais, il a dit... Alors, choisissez quelque chose de très simple, de très anglo-saxon, Chunk Smith, Herb Brown, etc. Et puis, j'ai choisi John le Carré. Et la vérité, c'est que je ne sais pas d'où vient ce nom. Mais la vérité est toujours tellement ennuyante que pour les journalistes, j'ai inventé la fiction, que j'étais sur dans un autobus de Londres, j'ai vu un magasin de chaussures et il s'appelait le magasin de John le Carré. J'ai volé le nom, mais c'est un mensonge.
Voilà, il y avait, on imagine, au moins deux John le Carré. Peut-être d'abord John le Carré et puis David Cornwell. Il a eu au moins deux vies, l'homme de la rue et l'homme de plume, diriez-vous, Isabelle Perrin?
Oui, c'est un personnage qui a toujours cultivé l'art du mensonge, dans son travail de romancier, bien évidemment, précédemment, lorsqu'il était employé dans les services secrets. Et plus généralement, il ne se résignait pas à la vérité, peut-être en raison de ses origines familiales et de son père, escroc, menteur, affabulateur, voilà, il dit « je suis né dans le mensonge ».
Donc il ne s'était pas fixé comme objectif de rétablir la vérité?
Pas du tout. On en parlera sûrement plus tard dans ses engagements politiques, c'est là très différent, mais dans tout ce qui concerne sa vie de romancier et la vie personnelle, le peu qu'il laissait filtrer sur sa vie personnelle, il est passé maître dans l'art de l'enfumage, dans le sens noble du terme, vraiment un art. Et cette anecdote sur son pseudonyme est parfaitement révélatrice, puisque lorsque je préparais le cahier de Lerne, j'ai fait beaucoup de recherches et j'en ai trouvé des très différentes. Comme il le dit à un moment, il disait « je ne sais pas d'où ça m'est venu ». Après, il a inventé cette histoire.
Il avait piqué le nom d'une enseigne.
Voilà, d'un magasin de chaussures, alors qu'il était sur un bus impérial. Tout ça avec des détails extraordinaires. Et puis après, il a dit « en fait, je ne sais pas trop comment ça m'est venu ». Et même ça n'est pas très satisfaisant. Je suis bien sûre qu'il y avait une explication réelle.
En ouverture de ce cahier de Lerne que vous avez dirigé, Isabelle Perrin, vous parlez d'un écrivain pluriel. En quoi? Quelle pluralité vouliez-vous mettre en avant? Celle de l'homme, justement, ou dans l'écriture aussi?
Dans l'écriture aussi, plus les années passaient, plus je traduisais le carré, et plus j'étais agacée, et aujourd'hui encore, de le voir réduit à l'étiquette du maître du roman d'espionnage, voire encore plus une étiquette réductrice de maître du roman de la guerre froide. Et j'ai toujours voulu défendre cette idée qu'il était beaucoup plus. Alors, d'un point de vue littéraire, d'abord, son œuvre ne se restreint pas à la guerre froide, comme nous le verrons plus tard. Plus de la moitié de son œuvre s'est faite après, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Et par ailleurs, il a également écrit une pièce de théâtre, il a collaboré à des scénarios pour le cinéma, il a écrit des centaines de textes courts, des nouvelles, des articles de journaux. Donc, on ne peut ni le réduire à la dimension uniquement romancier, ni dans la catégorie roman le réduire à l'unique dimension de l'espionnage. Ne serait-ce que parce que c'est un véritable styliste. S'il y a une évolution dans son œuvre, parce que beaucoup de ses caractéristiques d'écrivain étaient présentes dès les tout premiers romans, mais ce qui a véritablement évolué, c'est sa maîtrise, non pas de la narration qu'il possédait, je crois, d'emblée, mais du style. Et ce travail, lui-même disait, c'est un travail pathologique. C'était un obsessionnel de la révision du texte pour peaufiner au mieux les phrases.
Il relisait aussi vos traductions ? On l'entend, il parlait pas mal français, dis donc.
Il parlait très bien français. Il avait fait relire notre toute première traduction, puisque donc, avec ma mère, nous avons traduit les romans de John le Carré à quatre mains depuis la Maison Russie, donc en 89, tous ces romans. Et comme vous le disiez, j'ai repris le flambeau seul en 2010.
Mais juste une parenthèse, oui, un mot sur votre mère, qui n'était pas une traductrice professionnelle.
Si, c'est-à-dire qu'elle aussi, c'est assez amusant, avait une double vie, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle avait commencé sa carrière comme musicienne. Elle a fondé le groupe vocal de jazz Les Doubles Six, pour lequel elle écrivait également les paroles. Et suite à de très graves problèmes de santé, elle a dû renoncer à cette carrière. Et elle s'est tournée vers ce qu'elle aimait le plus, qui était l'anglais. Elle avait fait des études d'anglais et la traduction. Alors au départ, dans le domaine de la science-fiction, et puis ensuite en littérature générale.
Voilà, et la rencontre entre les deux va vraiment se faire aussi sur peut-être ce sens de la phrase, ce sens du rythme.
Exactement.
Qu'ils ont pu trouver, et c'est là où ils ont pu se rencontrer. Je reviens juste sur l'histoire de cet homme, de John le Carré. C'est une légende aujourd'hui, une légende aussi parce qu'on sait qu'il a eu une multitude de vies sans toutes les connaître, et pourtant petit à petit il a commencé à se raconter. Est-ce que vous, depuis que vous le lisez, depuis que vous le connaissez, notamment par ces livres que vous avez traduits, Isabelle Perrin, vous avez réussi à arriver au bout de ce jeu de pistes et à comprendre un peu qui était cet homme.
Je vais forcément vous répondre non. Je pense qu'il emporte avec lui une grande partie de son secret. S'il y a une certitude que j'ai, c'est ce qui me manquera, mais nous manquera le plus, c'est son humanité profonde. Là, pour le coup, autant dans sa vie personnelle que dans ses romans, oui, l'espionnage, mais l'espionnage n'est guère qu'une toile de fond pour lui, pour vraiment sonder la psyché humaine, les failles, les doutes de ses personnages et les siens, évidemment, en miroir. Et il s'est battu sur tous les fronts, au sens métaphorique, je veux dire, mais il était devenu une voix qui comptait, une véritable conscience dans la Grande-Bretagne et dans le monde d'ailleurs d'aujourd'hui, toujours le premier à critiquer le cynisme de ces anciens, de cette caste d'anciens d'Eton qui tient les rênes en Grande-Bretagne et aujourd'hui et depuis quelque temps. Et donc cet engagement repose sur une profonde fraternité avec l'humain, avec un H majuscule, comme aussi bien avec les petites gens que les grands de ce monde, mais toujours dans le sens d'aller au-delà des apparences et pour sonder les cœurs.
Alors, il a eu une carrière d'écrivain un tout petit peu sur le tard, c'est-à-dire qu'en tout cas, il a eu une vie avant, une vie d'espionnage. Comment est-il passé à la littérature? Comment on change de camp à un moment dans sa vie? On l'écoute.
Tout d'abord, je n'étais pas un très bon espion. Je réfléchissais trop, je me posais trop de questions sur des choses que je n'aurais pas dû mettre en cause. Mais lorsque je suis arrivé en Allemagne, à Bonn, puis à Berlin, pour la construction du mur, j'ai commencé à penser que nos provocations du côté occidental, nos manipulations, l'immense énergie déployée dans l'anticommunisme, c'était nous qui étions en fait en train de créer l'ennemi que nous voulions avoir. Et aussi, j'ai commencé à écrire. Et quand c'est arrivé, j'ai eu le sentiment de pouvoir voler. Je pense que le but de mon travail, si tant est qu'il est un but, est de rendre cette épouvantable réalité intelligible, de la réduire, d'en faire une anecdote pour la rendre plus accessible aux humains. Le rôle de la fiction serait, dans ce cas, de rendre la réalité crédible.
On retrouve dans ces mots de John le Carré pour La Grande Librairie de François Bunel il y a 2 ans, au moment de la parution de L'Héritage des Espions au Seuil, que vous avez traduit, Isabelle Perrin, ce rapport complexe qu'il décrit entre vérité et réalité, rendre la réalité crédible, tel est le rôle de l'écrivain, disait-il. Juste pour revenir sur les débuts de son œuvre, il va vraiment s'imposer avec L'Espion qui venait du froid, c'est son 3e roman, oui, si je ne me trompe, assez rapidement. Donc, il écrit, ses livres vont vite rencontrer un succès, ou en tout cas un public particulier, dans cette époque si particulière.
Oui, dès L'Espion qui venait du froid, donc dès son 3e.
Donc là, on est en 64.
Hein. 63, je crois, 64. Oui. Et il explique par ailleurs que s'il n'avait pas rencontré le succès, il aurait continué à écrire, donc ça n'était pas le but de la manœuvre. Mais que il a été lui-même surpris de l'écho que ce roman trouvait, et je pense que, peut-être pas sur le coup, mais en tout cas par la suite, il a perçu que ce qui en faisait toute l'originalité était ce dont je parlais précédemment, c'est-à-dire le côté déchirant de la situation de Limas, le héros de L'Espion qui venait du froid. Et là encore, pourquoi les lecteurs... Alors, il y a 2 choses extraordinaires dans L'Espion qui venait du froid. C'est qu'il était le premier à décrire ce monde de l'espionnage de façon... Alors, c'était totalement l'anti-James Bond. C'est pas les jolies jeunes femmes, les voitures de luxe et les combats à coups de flingue. Il décrivait un monde de tout petits grains de papier qui peuvent passer des heures à éplucher des dossiers pour retrouver une information. Et ça, c'était très novateur. Et donc, par ailleurs, dans tous ses romans, d'ailleurs là, Alec Limas est un agent des services secrets, mais il est lui-même manipulé par ses propres services. C'est une opération de double trahison, enfin voilà, très complexe. Donc la dimension humaine de ce personnage qui finit par mourir au pied du mur est, je pense, ce qui a parlé au lecteur. Donc à la fois ce mélange entre le monde totalement opaque des services secrets qu'il nous permettait de découvrir et ce prisme d'un personnage qui se retrouve ballotté par la grande histoire à son corps défendant.
John Smiley, ce personnage récurrent de ses romans, quand est-ce qu'il apparaît ?
Il apparaît dans son, je veux pas dire bêtise, mais dans son tout premier roman, en fait, donc qui est plus L'Appel du Mort, qui est plus un polar, c'est vraiment un roman policier, mais suite à un meurtre, on fait appel à George Smiley, donc qui travaille dans les services secrets, pour venir mener l'enquête, et tout est déjà là, le personnage naît... Et il allait le réutiliser dans 8-9 romans par la suite. Et là encore, l'anti-héros absolu. Un homme pas beau, qui essuie ses lunettes sur le bout de sa cravate, qui n'a aucune espèce ni de grandiloquence, ni de virilité agressive, là encore à la James Bond, mais qui est un fin observateur de l'âme humaine. Et tout... toutes les enquêtes de Smiley passent par ça. Quand ensuite, dans la trilogie de la taupe, il affronte Carla, c'est finalement en tirant sur des ficelles familiales et émotionnelles qu'il arrive à faire craquer l'espion. Donc Smiley est à la fois un intellectuel qui donc travaille dans l'analyse de toutes les informations et un formidable lecteur des émotions humaines, et notamment on le voit dans toutes les scènes qui sont parmi, à mon avis, les scènes récurrentes dans tous les romans de Le Carré, que sont les scènes d'interrogatoire ou de briefing ou de débriefing, qu'il réussit avec talent parce qu'il a une excellente oreille pour la voix des personnages. Et là encore, on est au cœur de l'interaction humaine, en fait.
Avec nous par téléphone, Marie Perret, historienne, professeure à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, titulaire de la chaire d'histoire de la Russie et de l'Union soviétique. Vous êtes l'auteur d'un article intitulé « Espions et agents doubles, les combattants de la guerre froide à l'œuvre dans la taupe » de John le Carré. Bonjour Marie Perret.
Bonjour.
Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Pourquoi est-ce qu'on dit que John le Carré est le romancier de la guerre froide? C'était son terreau romanesque au départ, mais pas que.
Oui, alors pas que, il faut quand même, cela a été déjà dit, hein, que John le Carré a une œuvre extraordinairement riche. Il a abordé dans ses derniers romans, qui sont postérieurs à la fin de la guerre froide et la chute du mur, des problèmes extrêmement importants, comme le fondamentalisme religieux, et y compris jusqu'à la question du Brexit, qui lui tenait à cœur. C'est vraiment un observateur de nos sociétés contemporaines, et en particulier, bien sûr, de la société britannique. Mais la guerre froide, c'est vraiment le terreau principal de son œuvre. Et je dirais pour trois raisons essentielles. La première, évidemment, on le sait, c'est que il l'a expérimenté lui-même, puisqu'il a fait pendant quelques années ce métier d'espion. Cette petite université, comme il y fait référence dans ses mémoires, mais ensuite, bien sûr, parce qu'il l'a observé avec beaucoup d'intelligence, de finesse, qu'il a gardé des contacts aussi dans le milieu des services secrets, dont il tirait quand même des informations, et puis parce que, et surtout, il a su très bien la décrire cette réalité de la guerre froide, des enjeux militaire de la deuxième moitié du XXe siècle, en insistant bien sûr sur le rôle des services secrets dans la quête de l'information, dans la fabrique aussi des fausses informations. Il insiste sur le rôle pivot de la Grande-Bretagne dans cette guerre froide, mais aussi, et c'est ça qui est très intéressant, il montre à quel point cette période est compliquée et à quel point la Grande-Bretagne aussi, finalement, décline, doit aussi être quelque part en concurrence avec les États-Unis, ce qui montre aussi que la guerre froide, ce n'est pas seulement une opposition Est-Ouest, c'est aussi une opposition entre deux modèles, mais aussi parfois des relations difficiles à l'intérieur des alliés, comme sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et c'est tout cela qui fait évidemment la finesse et l'intelligence de son analyse de la guerre froide.
Et comment lui, l'homme de l'Ouest, regarde-t-il l'Est et notamment l'Union soviétique, la Russie? Avec quel regard porte-t-il sur ce qui est censé être l'autre camp, le qui serait du mauvais côté de l'histoire?
Alors, il a écrit et il a dit hein, à quel point la situation, cette coupure, cette rivalité Est-Ouest avait été source de souffrance des deux côtés, finalement, source d'engagement, source de sacrifice. Et c'est vraiment il jette un regard extrêmement intéressant et je dirais qu'il est presque en empathie, c'est-à-dire que même si évidemment la rivalité est là, même si on s'affronte jusque finalement au sacrifice de sa propre vie, puisque on s'aperçoit quand même, comme on l'a déjà mentionné, que beaucoup de ces espions meurent. On ne peut pas dire qu'ils vivent de très âgés dans les romans de John le Carré. Hein. Donc voilà, la vie est fragile et celle de ces espions a fortiori, ce qui rapproche finalement les deux camps tout en les éloignant, pourrait-on dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même beaucoup d'estime pour les combattants. Et Carla, finalement, hein, qui est le maître espion soviétique, qui est le pendant, pourrait-on dire, de Smiley, eh bien, c'est un homme qui est doté de qualités. Alors, parfois, évidemment, de qualités, c'est un homme froid, un homme qui est dans le contrôle de lui-même, mais supérieurement intelligent. Et par là, c'est une forme d'hommage, évidemment, qu'il rend à l'ennemi, qui, pour combattre et pour être aussi fort, doit avoir des qualités qui sont celles de Smiley lui-même, c'est-à-dire une intelligence, une capacité à maîtriser les situations, une finesse d'analyse, et aussi, quand il le faut, un caractère implacable sur le terrain.
Dans la préface, l'avant-propos de la Maison Russie, il parle de ses amis soviétiques, hein, en espérant qu'ils trouveront dans cette histoire, dans cette fable, un peu de leur chaleur humaine et des espoirs partagés d'un avenir gouverné par la raison et la fraternité. Il parle aussi de ce sentiment de respect mêlé d'effroi qui s'impose à lui devant l'ampleur des problèmes que l'Union soviétique doit alors affronter. Qu'est-ce qu'un roman comme La Taupe nous dit de l'histoire avec un grand H ?
Alors, je voudrais revenir sur la citation que vous venez de donner pour mentionner, bien sûr, à quel point John le Carré, c'est un humaniste européen, profondément européen, on le voit dans son anti-Brexit, mais aussi, finalement, dans son affection, pourrait-on dire, pour le peuple russe, hein, pour cet après-Union soviétique dont il attendait beaucoup. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à mentionner. Alors après, ses livres sont extraordinaires, ils donnent de la matière, parce que, finalement, ils rendent bien compte de l'atmosphère de cette époque, de ce qu'était la guerre froide. Pas forcément seulement une vision héroïque ou a fortiori totalement extravagante, comme celle qu'on a dans les romans, voilà, de mentionner James Bond, mais une vision très terre à terre des choses, avec cette grisaille, cette atmosphère très très peu glamour, hein, aux antipodes de cette vision romantique, et qui montre à quel point le métier d'espion était difficile, mais aussi à quel point ces hommes ont donné de leur vie pour ce qui était alors présenté comme une cause.
Mais à vous entendre, Marie-Pierre Rey, on sent que ces écrits sont quand même devenus aussi une matière pour les historiens. Alors c'est intéressant parce qu'Isabelle Perrin nous disait à l'instant que avec lui, il y avait toujours ce trouble entre vérité et réalité. Donc qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est de l'archive? Pour vous, l'historienne, la question doit aussi se poser. Mais on a tendance à croire, en vous entendant, que plutôt qu'un manuel de géopolitique pour comprendre la guerre froide, il fallait peut-être simplement lire John le Carré.
Alors, en tout cas, il faut lire aussi John le Carré, ça c'est une évidence, et peut-être avant même les manuels de géopolitique, parce que ce qui est important souvent, hein, c'est qu'il est difficile pour l'historien, c'est l'atmosphère, c'est la manière dont les gens à l'époque hiérarchisent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, et c'est toujours ça ce qui se pose au métier d'historien, c'est de juger, et là, grâce au roman de le Carré, on perçoit ces atmosphères, on perçoit ce qu'est la ville de Vienne, par exemple, comment ces hommes évoluent entre deux eaux, comment ils se déplacent. Et c'est ça aussi qui fait toute la chair de cette histoire. Elle est incarnée chez John le Carré, et je dirais que c'est peut-être ça qui est le plus saisissant et le plus intéressant dans ses romans.
Merci beaucoup à vous, Marie-Pierre, pour ce témoignage précis sur l'homme et l'œuvre de John le Carré. C'est vrai que d'ailleurs il insistait énormément sur l'importance des rencontres dans son métier, hein, rencontres qui, quand il était au service du MI6, l'ont aussi énormément nourri après pour son écriture, hein. Isabelle Perrin.
Oui, parce qu'il là encore de naissance peut-être, il avait ce don d'observation, d'empathie, disait Madame Rey précédemment. Il observait ses contemporains, donc que ce soit dans le cercle familial, dans la vie de tous les jours, ou en l'occurrence là où il travaillait, puisqu'il dit qu'il n'a pas fait grand-chose dans les services secrets en fait. Mais il l'observait. Beaucoup de personnes pensent que la figure de George Smiley est directement inspirée d'un de ses collègues. Lui-même a dit que non, mais enfin voilà, comme d'habitude. il leur donne chair et pour nous donner, j'étais partie là-dessus et j'ai dévié après, dans la plupart de ces romans récents, le héros n'est justement pas un espion, mais une espèce de monsieur tout le monde qui se retrouve embringué dans une histoire incroyable. Et là encore, ce sont des véhicules pour lui permettre de transmettre tout le côté à la fois émotionnel et psychologique qui permet au lecteur de se retrouver dans ce qui sinon serait pour lui une histoire finalement assez abstraite.
Une histoire sans archives, une histoire qui avait laissé par ailleurs aussi peu de traces. C'est étonnant parce que c'est exactement ce qu'il dira. On retrouve ça dans un entretien au Monde de son personnage, de son espion, George Smiley, qu'il a inventé, dit-il, comme ce père de substitution, qui est aussi mon mentor secret, hein, disait-il, qu'il l'avait créé, inventé dans un moment où il se sentait socialement désorienté et privé de modèles parentaux auxquels s'accrocher. Donc ce héros fut pour lui aussi un passeur. Ensemble et jusqu'à 13h30 avec vous, Isabelle Perrin, traductrice de l'œuvre de John le Carré, édité au Seuil. Nous tentons de revenir sur ce que fut l'œuvre et l'homme, John le Carré, jusqu'à 13h30.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
John le Carré, alias David Cornwell, dont on a appris hier soir le décès durant le week-end en Cornouailles. C'était chez lui, dans sa maison. Cornouailles, ça a été c'est l'endroit où il a choisi de s'établir à un moment de sa vie très particulier. C'est une région qui a peut-être aussi beaucoup influencé la suite de son œuvre.
Sans doute, et c'est l'endroit où il se retrouvait personnellement. Il a toujours été extrêmement sollicité. Évidemment, dès le début de sa notoriété, mais encore plus tous ces derniers temps. Alors, il avait une résidence à Londres, puisqu'il devait y être de temps en temps, mais son vrai refuge, c'était la Cornouaille. Il disait...
C'était une ferme face à l'Atlantique.
Hein. Absolument.
On voit presque les décors, les photos, le vent, la mer. Hein,
qui... Sublime. Il est littéralement au bord d'une falaise face à la mer, et il explique qu'il passe tous ses après-midi à arpenter cette falaise en imaginant ses romans, en méditant, et ce cadre comptait énormément pour lui, à la fois pour ce cadre naturel magnifique qu'il adorait, mais aussi pour cet isolement volontaire qu'il lui offrait.
Et c'est là que vous l'avez rencontré, François Armanet, en 2013, dans sa maison, donc là-bas où il était installé. Bonjour à vous, François Armanet.
Oui, bonjour.
Vous l'aviez rencontré pour l'Obs, hein. Merci beaucoup d'être avec nous.
J'ai eu le privilège absolument d'aller dans son repère.
Mais alors, vous avez rencontré qui ?
Lui qui s'appelait David Cornwell.
Voilà.
C'est un hasard, et effectivement... Il était dans un endroit isolé. C'était une expédition tout à fait romanesque. Et aussi un jeu de piste. D'abord, pour aller à Penzance de Londres, c'est très long en train. Il y a 18 gares. C'est au terminus. Et on arrive aussi sur les terres de Stevenson, puisqu'il y a aussi une auberge à Penzance où on avait pris un fish and chips dans l'auberge de l'amiral Benbow. On était même... Tout ça est très romanesque, dans une petite pension de famille qui était possédée par la Shrimp. La Shrimp, c'est James Shrimpton, c'est le premier top modèle et la compagne de David Bellay. Et le Carré donc nous avait fait prendre par un taxi avec tout un itinéraire quasiment codé. Voilà. Et quand on est arrivé là-bas, ce gentleman farmer nous a accueillis de manière incroyable en nous faisant d'abord faire une balade. Et effectivement, de chez lui, en face, disait-il, c'est l'Amérique. Et effectivement, c'est l'océan Atlantique. Donc l'endroit était lui-même absolument fabuleux, balayé par le vent et les brumes.
Mais alors, est-ce que vous avez...
Le soleil s'éclaircissait, voilà.
François Armanet, là-bas, quand vous y êtes allé en 2013, je ne sais pas si vous avez plutôt rencontré John le Carré ou David Cornwell, lequel des deux, mais est-ce qu'il était, en tout cas, l'homme que vous aviez face à vous, aussi sauvage que les Cornouailles britanniques qui l'habitaient?
Non, pas du tout. On aurait vraiment dit un gentleman farmer avec un accueil incroyable. Enfin bon, d'abord on a eu un long entretien et un entretien et très littéraire et très politique, parce que de toute façon il y a une dimension romantique chez ces espions, mais juste aussi. C'est ça qui est paradoxal. Du reste, il explique bien que les agents, en fait, ont des complicités psychologiques quasi affectives qui doivent connaître la vie amoureuse de leurs informateurs, leurs amours illicites, leur vie cachée, etc., qu'on est leur confesseur, leur meilleur ami, leur père, leur mère à la fois. Et c'est ça aussi qui est fort chez Le Carré, parce que ça, c'est réel et en même temps profondément romanesque, et c'est ça aussi qui, face aujourd'hui à la technologie du renseignement, fait que les hommes, pour lui, sont toujours précieux parce que sont capables d'interpréter les situations, évidemment pas du tout comme machines algorithmiques.
Alors c'est intéressant parce que vous le rencontrez justement à l'occasion de la parution, de la sortie en France de son roman Une vérité si délicate. Vous l'avez notamment questionné hein, sur ce rapport à la vérité. Il n'était pas simplement le romancier de la guerre froide, on a cessé de le dire depuis le début de cette émission. Il était aussi celui de l'après, de cette autre période qui suivit et de cette autre Europe qui s'est mise en place. Vous évoquiez son regard sur les nouvelles guerres, la nouvelle diplomatie sans hommes, cette guerre par la machine. Qu'est-ce qu'il a, comment il a réagi à propos du Brexit, Isabelle Perrin? Est-ce que c'était l'homme à laisser filer son île loin de cette Europe continentale?
Je crois que c'est une des plus grandes souffrances de ce qu'il faut bien appeler maintenant la fin de sa vie. Il était profondément pro-européen et le Brexit était pour lui une erreur fatale. Il a tiré sa révérence avant le 31 décembre de cette année. Je n'y vois pas qu'une coïncidence. C'était très douloureux pour lui.
Il avait refusé d'écrire ses mémoires jusqu'ici, jusqu'en 2016, François Armanet. Pourquoi? Est-ce que vous lui aviez posé la question? Est-ce que c'était pour ne pas donner, lui qui disait « je me rends compte que tous mes romans sont une version codée de ma propre vie », est-ce que c'était pour ne pas donner à ses lecteurs les clés de ses romans, pour laisser le mystère entier en un mot, s'il vous plaît?
Oui, c'est vrai, mais il nous en avait donné un espèce d'avant-goût et en disant qu'il était très sollicité par, en tout cas, des auteurs qui voulaient écrire sa biographie et que finalement, ça lui donnait envie d'écrire la sienne. Il nous avait aussi raconté une longue anecdote sur Arafat qu'on a retrouvé 3 ans plus tard, en fait, dans le tunnel aux pigeons, donc son autobiographie. Mais d'une certaine manière, l'autobiographie la plus exceptionnel qu'il ait pu écrire, c'est son roman Un pur espion, parce que c'est sur son père et c'est aussi sur lui. Donc en fait, dans ses romans aussi, il y a une part autobiographique assez incroyable.
Merci beaucoup François Armanet. Alors l'Obs a eu la bonne idée de remettre en ligne cet entretien qu'il vous avait accordé. J'invite les auditeurs de France Culture à s'y plonger. Beaucoup de questions et beaucoup de réponses y sont apportées. Merci à vous aussi Isabelle Perrin d'avoir été avec nous. On renvoie vers les auditeurs, vers toute l'œuvre romanesque et notamment celle de la dernière partie de sa vie de John le Carré. Retour de service, L'héritage des espions, Une vérité si délicate et bien sûr ces deux titres phares. L'espion qui venait du froid et la taupe. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Oriane Delacroix avec Jean Bulot qui ont préparé cette émission avec l'aide précieuse de Laura Dutèche-Pérez. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Laurie Vachon.